18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes jeudi 21 mai et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.fm. Bonsoir Pierre-Louis, comment tu vas ?
Salut Marion, salut à tous. Eh bien écoute, ça va, on profite du beau temps, je pense, comme tout le monde. Et toi ?
Pareillement, j'apprécie de lire dans mon jardin avec un petit peu de soleil et toujours de la crème solaire.
C'est sûr, il vaut mieux se protéger. Et bah moi je vous propose aujourd'hui, en cette période de crise sanitaire et après le confinement, de parler d'initiatives qui fleurissent dans le domaine de l'écologie et de l'environnement. Alors là, c'est une initiative qui remonte un peu plus, puisque Julien Gracio, ça commence à faire un bout de temps qu'il s'intéresse à ces questions. Aujourd'hui, il a développé Organic Boats pour construire des bateaux écolos avec des matériaux locaux et respectueux de l'environnement. Alors je l'ai eu hier au téléphone et donc on a parlé construction navale écolo, slow tech et financement participatif aussi.
Je suis en ligne avec Julien Gracio d'Organic Boats. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors, vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous étiez biologiste marin avant de vous tourner vers la charpenterie navale. C'est le but d'Organic Boats. J'ai lu que, en fait, cette transformation, on va dire, s'est faite au cours d'un voyage à vélo en Asie du Sud-Est avec votre femme. C'est là, oui, en fait, que l'idée a commencé à germer, c'est ça ?
C'est là que le déclic s'est fait, ouais. L'idée devait déjà être en gestation quelque part, mais c'est là vraiment que ça s'est concrétisé dans ma tête et que j'ai commencé le processus quoi, de reconversion et développement du projet. Donc effectivement, on était parti. Alors j'étais biologiste marin, c'est vrai. J'ai fait une dizaine d'années dans ce domaine, entre la fin des études, du travail en Guyane, sur les tortues marines. Et puis travailler dans un laboratoire à Nice, en pas mal de plongées, cartographie. Et bon, de fil en aiguille, j'ai choisi de m'éloigner un peu de ça, je pouvais plus être sur le terrain tout simplement, je pouvais plus plonger à cause de problèmes de sinus. Et on est parti en voyage avec ma compagne, et à ce moment, je m'intéressais pas mal aux bateaux, beaucoup, même de plus en plus, de manière personnel, quoi, loisirs, dans des associations, les bateaux en bois, ça commençait à me parler. Et donc en voyage, j'ai voulu aller dans tous les ports d'Asie ou d'Inde ou partout où on passait, j'allais prendre des photos des bateaux, monter sur les bateaux, voir un petit peu ce qu'il y avait. Et un jour, on s'est retrouvé sur une plage au sud de Sulawesi, à Bira, ça s'appelle. Là-bas, ils construisent encore des énormes bateaux en bois, les pinisi, des bateaux traditionnels qui servent toujours au transport, au fret. C'est dans les derniers grands bateaux à voile de travail. Et là, j'étais tellement en admiration devant ce chantier. Ma compagne m'a dit, mais pourquoi tu construirais pas toi aussi des bateaux, en gros. Et là, ça fait tilt, ça fait des étincelles et c'était parti, quoi. Parce que je cherchais effectivement une reconversion après la biologie marine. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire après devoir quitter ce métier qui me passionnait déjà. Et là, j'en ai trouvé un autre. Voilà.
Et donc, comment s'est passée cette reconversion ? J'ai lu que vous aviez d'abord fait une formation de charpentier, puis de charpentier naval, puis une formation de marin, c'est ça ?
Dans l'ordre, j'ai fait d'abord, donc au retour du voyage, la première étape, c'était Toulouse. Là, j'ai commencé. Alors, je m'étais renseigné pour faire la formation directement de charpentier de marine, parce que j'avais pas d'expérience et particulièrement là-dedans, si ce n'est dans une association. Et les prérequis pour rentrer aux ateliers de l'enfer, donc c'est l'organisme de formation de Douarnenez qui m'intéressait bien. Les prérequis, c'est d'avoir déjà une expérience ou un diplôme dans le travail du bois. Donc comme les histoires ensemble avec ma compagne faisaient qu'on allait vers Toulouse, là-bas, j'ai commencé à une formation de charpentier traditionnel avec les compagnons du devoir et à travailler dans une entreprise de charpente traditionnelle pour travailler le bois, voilà. Donc ça a duré un an. Ensuite, on est parti vers Villefranche-sur-Mer. On est retourné dans l'endroit où on avait commencé un petit peu à s'installer au début, dans un projet alors qui était tout autre. Là, on voulait créer un collectif, une ferme dans l'arrière-pays. Ça n'a pas marché, mais j'ai profité de ce moment pour passer un diplôme de marin, matelot, et j'ai embarqué à la pêche à Cannes. Première expérience professionnelle sur l'eau, qui était assez curieuse, assez intéressante. Et voilà, et après, on est monté en Bretagne pour s'installer et j'ai pu faire cette formation de charpentier de marine qui m'intéressait déjà depuis 2-3 ans, là, c'était à Douarnenez. Voilà, donc là maintenant je suis installé à Crozon. On a vraiment posé nos valises là-bas, construit la maison, on a nos enfants ici. Et on est très content d'être installé ici. C'est parfait pour ce projet de bateau, pour essayer les bateaux, pour le réseau est génial ici. Et du coup, voilà, la formation de charpentier de marine à Douarnenez en 2015-2016 et le montage et le développement de mon atelier du projet d'Organic Boats.
Alors parlons-en d'Organic Boats. Le but, si j'ai bien compris, c'est de faire des embarcations écologiques, fonctionnelles et accessibles au large public, le tout avec des matériaux en grande majorité qui proviennent du local, c'est ça ?
C'est ça, vraiment le cahier des charges, on va dire, enfin la philosophie, je préfère, du projet, c'est d'être avoir un impact écologique environnemental le plus faible possible, et du coup travailler vraiment sur tous les points de la construction, à la recherche des matériaux, au recyclage, à l'entretien, tous ces aspects, ou à la fabrication, vraiment le travail de l'artisan, quoi. Qu'on soit dans les meilleures conditions et par rapport à l'environnement et l'humain. Et alors oui, c'est là où mon passé de biologiste marin peut-être joue un petit peu. C'est vrai que j'ai quand même déjà eu le temps de m'imprégner de questions d'écologie, de ces préoccupations, le problème du plastique, le changement climatique, l'utilisation du pétrole, les pollutions, enfin la chute de la biodiversité, tout ça, c'est des sujets de travail hein, pour moi en fait avant. Donc maintenant, ça a alimenté un peu mon projet de reconversion et de construction de bateaux.
Oui, justement, j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche. Vous venez d'y répondre et puis ça colle bien avec tout ce qu'on entend, surtout en ce moment, après cette période de confinement où faut peut-être repenser un petit peu le modèle. Donc finalement, c'est très en adéquation avec tout ça.
C'est le fruit c'est encore en cours, hein, c'est le fruit, mais ça se développe toujours d'une réflexion assez longue. Hein, ça fait très long, ça fait 10 ans pratiquement là que j'ai commencé à penser bateau, construction, mode de construction, et que là maintenant j'en suis vraiment à la réalisation. Et ça fait pas mal de temps que je suis dans les associations, les laboratoires de recherche en écologie, et qu'on voit bien quoi qu'il y a une tendance qui aura ses limites et qu'on aura beau faire tous les efforts de recherche et de protection par les c'est tout un système qui doit évoluer quoi, qui doit se transformer pour trouver un nouvel équilibre quoi, qui soit durable. Donc oui, moi ces questions je les ai depuis assez longtemps. Et dans le milieu du nautisme, alors j'avais commencé tout simplement moi sur expérience école de voile en Guyane sur des petits 4-20 en plastique, hein, où j'ai pris un énorme plaisir à découvrir la voile avec ces petits bateaux. Ils sont vraiment très très bien quoi, très pratique, très comme un grand quoi. Il y a le foc, il y a la grand voile, on peut naviguer en solitaire comme à plusieurs. Et après, au fur et à mesure quand même, je voyais bien que le monde de la voile, école de voile, club de nautique, enfin les yacht clubs, c'était pas mon monde quoi. Et j'ai rencontré une association en fait à Cannes-sur-Mer, à côté de Nice, qui restaure des vieux gréements. Ça s'appelle Aventure Plurielle. Et là, je vais leur faire un petit clin d'œil parce que quand même, ils sont pas pour rien dans toute mon histoire. J'ai commencé donc quand je travaillais en biologiste marin à Nice à aller naviguer avec les vieux gréements, les voiles latines, les pointues, les barquettes, tous ces bateaux du patrimoine maritime, qu'ils avaient vraiment cœur à sauver, à continuer à faire vivre, à en construire de nouveaux si possible. Et là, ça me parlait plus déjà. Le bois, le lien avec un patrimoine, avec une culture, là, un peu plus ancestrale, on va dire, me parlait déjà plus. Mais j'avais quand même toujours des problèmes avec le chantier où on utilise quand même des produits toxiques potentiellement, des peintures, des anti-fouling, le temps et l'effort de construction ou d'entretien sur ces bateaux traditionnels était pour moi démesuré par rapport au plaisir sur l'eau. Donc j'ai commencé à imaginer des bateaux un peu différents, ce que je commence à développer, ce que je développe avec Organic Boats et le Palato, le premier modèle, pour avoir un bateau qui soit en matériaux naturels, avec du bois, du lin, du bambou, inspiré de construction traditionnelle, mais qui soit quand même très facile d'utilisation et à transporter, très facile à entretenir. Voilà. Je cherche vraiment de la simplicité.
Et pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez décrire un peu ce premier prototype, justement le Palato, à quoi ça ressemble, les dimensions, comment il réagit un petit peu sur l'eau, est-ce que vous pouvez décrire ça pour nos auditeurs ?
Alors comment il réagit sur l'eau, je ne vais pas pouvoir trop développer parce qu'en vrai, j'ai pu faire qu'un seul essai d'une heure juste la veille du jour du confinement.
C'est peu.
Ouais, c'est assez peu, donc ça a marché. J'étais très satisfait quand même de l'expérience, on a pu faire des belles images, j'ai pu valider, il flotte, il vire, il réagit bien. Mais c'est encore à reconfirmer. Là, je vais prochainement le remettre à l'eau, le premier prototype en tout cas, le remettre à l'eau pour continuer ses essais et les améliorations techniques. Donc le Palato, c'est un bateau de 5,50 m de long. C'est un petit voilier donc à double balancier avec donc une coque centrale qui fait 5 mètres de long par 80 cm de large. Il y a deux balanciers, deux flotteurs latéraux reliés à la coque centrale par des bras de liaison. C'est un petit trimaran quoi. Qu'on peut faire évoluer à la voile. Il y a une voile en pince de crabe qui est inspirée des voiles du Pacifique. Je suis allé piocher exactement dans l'archipel Santa Cruz au sud des îles Salomon parce que une étude précise du CNRS, un organisme de recherche qui avait fait des tests en laboratoire, en soufflerie, avait prouvé que ces voiles traditionnelles étaient les plus performantes du Pacifique et même égalaient, voire surpassaient les voiles modernes, entre guillemets. Bon, tout ça à voir quand même par rapport à l'ensemble du bateau. Hein. Et puis j'aimais bien l'esthétique, la gueule de la voile, de la pince de crabe, l'exotisme. Donc voilà, un petit voilier à double balancier qui fait dans les 120 kg à peaufiner encore. Je vais changer de type de bois là pour le prochain bateau, donc je vais sûrement l'alléger un petit peu. Et voilà, construction, c'est la quille, toute la charpente axiale, l'axe du bateau au fond est en bois massif. Creuser à l'herminette, un outil pour creuser le bois, comme une pirogue traditionnelle en fait. Et ensuite, il y a une étrave et un étambeau qui sont aussi façonnés en grande partie à la main. Donc on a une charpente, une base qui est quand même massive et solide. Et au-dessus, sur cette base, je monte une structure en bambou qui sont croisées. Il y a donc des membrures en bambou qui sont dans l'axe transversale du bateau et des lattes de bambou en long, tout ça est croisé et ligaturé avec du fil de lin pour faire une armature sur laquelle je vais appliquer une toile comme les bateaux groenlandais, les bateaux, les kayaks ou les curags aussi irlandais où traditionnellement ils utilisaient cette technique d'une armature avec une toile qui mettait par-dessus une peau ou un cuir. Voilà. Donc,
Donc là, c'est une toile en lin, c'est ça ?
Ah, c'est de la toile de lin, très épaisse pour la coque, ça fait 700 grammes par mètre carré, c'est assez costaud. C'est les voiles de la toile utilisée pour les voiles de l'Hermione.
D'accord, okay. L'Hermione, célèbre navire.
Oui, voilà, le célèbre navire qui a quand même fait un grand travail depuis pas mal d'années pour remettre en marche des ateliers en technique traditionnelle avec les matériaux naturels. C'est grâce à ça, c'est vrai que j'ai pu bénéficier un peu de leur travail, parce qu'ils ont l'entreprise latine qui me fournit, avait remis en marche la fabrication de toiles techniques épaisses, solides pour l'Hermione. Donc moi j'utilise ces toiles-là aussi.
Eh bien, ça fait le... Bon, oui, je vous écoute.
Non, vraiment, ma démarche, ça demande aussi toute une recherche et sur les matériaux et les filières, quoi, parce qu'on ne trouve plus, en fait, la toile naturelle, des qualités qui sont nécessaires pour le bateau. Pour les bambous, là, c'est exotique, c'est pas d'ici traditionnellement, donc c'est normal qu'on n'en trouve pas encore facilement ici, ça se développe. Mais... pour le lin, c'est typique. Pour les cordages aussi, les cordages naturels, ça a été un peu de recherche quand même pour trouver les bons fournisseurs. Et on est encore en train de travailler ensemble pour voir quels sont exactement les modèles, enfin les caractéristiques dont j'ai besoin et faire évoluer tout ça pour que ce soit fiable. Donc ouais, il y a un travail de recherche, en fait, de remise en marche pour l'utilisation des matériaux naturels, quoi. C'est un peu paradoxal, mais c'est un peu la réalité d'aujourd'hui, quoi. On trouve beaucoup plus facilement en synthétique, quoi.
Et pour l'instant, quel retour, éventuel soutien vous avez du monde de la voile, de la construction navale ?
Soutien, ils sont multiples, hein, maintenant. Là, il y a le charpentier de marine de Camaret, par exemple, qui m'accueille dans son atelier pour qu'on partage l'espace et qu'on puisse échanger pour la construction du prochain bateau. Moi, j'ai mon atelier qui est... suffisant pour une construction, mais là je trouvais chouette qu'on puisse échanger, partager l'espace. Le voilier de Camaret aussi, qui est vraiment partie prenante depuis le début là, du projet, qui m'a aidé pour la fabrication de la première voile, qui là va travailler vraiment du début à la fin de la fabrication de la prochaine. On va voir si on utilise quand même la machine à coudre, parce que là la première je l'ai fait à la main, j'avoue que c'est assez fastidieux. Mais
oui, j'imagine.
Non, mais enfin, ça se fait, en fait, c'est possible, mais bon, dans une démarche où je veux faire une série, quand même, en vendre, j'espère, quelques-uns dans l'année, je sais pas si ça va être équilibré économiquement, mais bon, c'était intéressant, important de faire cette étape à la main aussi, se rendre compte vraiment sur une petite voile si c'est à quel point c'est long ou pas. C'est possible, c'est tout à fait possible, et du coup c'est rassurant parce que ça me fait dire on peut faire les réparations très facilement, ça c'est important, quoi.
Ouais, effectivement, c'est aussi tout le but de quand on fait dans le durable et dans l'écologique, faut que ce soit réparable aussi relativement
voilà,
facilement.
C'est le concept low-tech, on utilise vraiment des techniques à l'opposé du high-tech qui nécessite de la haute technologie, du laboratoire, des matériaux industriels qu'on ne peut pas avoir facilement. C'est difficile à trouver. Le low-tech, c'est transposable partout. N'importe qui peut prendre un fil de lin, une aiguille et réparer sa voile, quoi, voire la fabriquer s'il le souhaite en entier. Et là, pareil, pour toutes les étapes de la fabrication, tout est transposable, je pense, dans pas mal d'endroits du monde, même... des gens qui n'ont pas beaucoup d'accès à l'énergie, à des grosses machines, on peut le transposer partout. Donc ce sera une étape prochaine aussi du projet d'aller fabriquer des bateaux dans des pays qui m'ont servi d'inspiration.
Eh bien, j'allais y venir, en fait, vous demander quelles étaient les prochaines étapes. J'ai lu qu'il y avait celle-là, j'imagine qu'il y a aussi l'espoir d'avoir quelques commandes. Voilà, comment vous imaginez la suite du projet ?
Alors pour les commandes, là j'attends d'avoir vraiment le prototype final à l'eau. Donc c'est la prochaine étape, ça déjà, construction du prototype final avec les modifications issues des essais en mer, là, du premier pré-prototype ou la première maquette grandeur nature. Donc là je construis dans quelques semaines, j'ai déjà commandé le bois, je suis en train de commander les bambous, on prépare la fabrication de la voile pour ce prototype final qui va servir de démonstrateur. Faire essayer aux gens. Et là, on pourra voir si effectivement ça intéresse des potentiels clients. Donc ça, c'est l'étape suivante. Tourner pas mal. Alors on va voir en fonction des possibilités, hein, de l'été, de l'automne, par rapport aux événements Covid, si si des événements vont pouvoir être quand même maintenus ou un petit comme tous les grands événements nautiques sont annulés, là où je devais être à Brest, à Douarnenez, tout ça. On va voir à réinventer tout ça. Et ensuite, j'aimerais, si ça continue, là, le projet, les financements avec le crowdfunding là, qui est en cours, faire un premier voyage en Indonésie pour aller construire un bateau là-bas, avec les personnes qui ont construit les bateaux, les Sandek, qui m'ont servi d'inspiration à mon palato. C'est le premier échange que je souhaiterais développer pour apprendre des artisans traditionnels de là-bas, leur montrer qu'ici, on s'intéresse aussi à ce qu'ils font et qu'ils ont vraiment un savoir-faire qui me semble hyper important, hyper riche et précieux. Et développer, commencer à développer un échange comme ça. Voilà, donc ça, c'est au perspective 2021. Et ensuite, bon, on verra. Là, aujourd'hui, il ne faut pas voir trop loin non plus.
Oui, c'est ça. Se projeter, c'est bien, mais il y a un moment donné, il ne faut pas non plus, j'imagine, faire des plans sur la comète. Je voulais revenir sur le crowdfunding, le financement participatif. Vous êtes passé par KissKissBankBank. D'ailleurs, on peut toujours aller sur la page de KissKissBankBank et vous soutenir, puisque, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs étapes dans le projet. Mais pour vous, c'était important aussi de passer par ce type de financement pour rester dans cette même démarche ?
Oui. C'est vraiment l'esprit, la démarche et le donner un peu l'élan à mon projet là. Je trouve parfait là, ce choix là de trouver des financements de cette manière. Et au-delà de l'argent, en fait, c'est vraiment la démarche collaborative et la communication qui se crée, l'émulation qui se crée autour, qui est assez porteuse quoi. Et c'est stimulante. Ça fait un an là que j'avais l'idée là de lancer un financement participatif, non un peu moins, c'était en août l'année dernière. Et rapidement j'ai eu l'information que le parc d'Armorique, le parc naturel régional d'Armorique, lançait un appel aux initiatives sur son territoire pour les gens, les projets, les associations, les entreprises qui voulaient faire un financement participatif. Donc j'ai un peu temporisé mon élan à lancer ce financement participatif en solo pour voir avec le parc d'Armorique. Et ça s'est lancé, une dynamique s'est lancée. Ils m'ont sélectionné parmi les 15 projets. On est deux projets à être sélectionnés spécialement par le parc pour recevoir une dotation et leur accompagnement technique et communication, leur aide sur du long terme. Et ça a vraiment lancé une chouette dynamique qui se concrétise maintenant seulement. Enfin, on a lancé le crowdfunding il y a un mois. Et du coup, ça a été tout un travail de préparation, de communication, de la mise à l'eau aussi du bateau. Il fallait avoir des images quand même, c'est important. C'était aussi l'objectif, faire des tests techniques. Et puis avoir des images du bateau qui navigue quoi, pour lancer cette campagne. Donc voilà. Un crowdfunding qui est en cours, qui dure encore, j'ai plus les chiffres exacts en tête, 35 jours, je crois 35 jours sur KissKissBankBank. On tape Organic Boats et on trouve assez facilement le projet.
Très bien, et donc si on veut vous suivre, il y a le site internet organic-boats au pluriel .com, la page Facebook et puis la page KissKissBankBank. J'ai peut-être oublié quelque chose.
Non, c'est toutes les sources d'informations, c'est super. Juste, je vais vraiment sur KissKissBankBank, l'information est hyper bien présentée, détaillée. C'est pas pour inciter forcément à aller cliquer pour donner de l'argent, mais juste la présentation est super essentiellement là-dessus. Sur le site internet, c'est encore en développement. Il y a aussi beaucoup de photos, il y a une vidéo, il y a pas mal de choses. Et je vous invite quand même à aller voir aussi la plateforme qui est une présentation un peu spéciale qui est chouette.
Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis, bon vent, comme on dit.
Merci beaucoup, et c'était un plaisir. Et voilà, à suivre, et bientôt sur l'eau, j'espère, dans les prochains jours.
On suivra ça via les réseaux sociaux, KissKissBankBank ou le site internet.
Merci.
Merci à Julien Gracieux d'Organic Boats. Et donc, toutes les infos sont à retrouver sur sa page Facebook et son site internet. Et donc, nous, on continue avec un reportage sur la cantoche, mais tout de suite après le titre Pangolin de l'artiste Of Course. Pangolin, oh, pangolin, oh, pangolin, oh.
Yo mets du respect sur les pangolas. Au pangola, pangola, pangola. Yo fallait pas croquer le pangola. Au pangola, pangola, pangola. Yo mets du respect sur les pangolas. Viens d'acheter 46 packs de PQ, je sais même pas pourquoi. On dirait que le monde devient con et que moi j'y échapperai pas. Métro, boulot, dodo, sans métro, la vie n'a plus de sens. J'ai besoin de cette odeur de pisse quand ma journée commence. Les boomers font des mèmes et même ma mère a fini Netflix. J'aurais pensé que ça serait bien plus chaud que ça l'apocalypse. C'est la guerre sans effort, ça manque même pas dehors. Déconfiné en confinement, c'est pas si con finalement. Pangola, pangola, pangola. Yo mets du respect sur le pangola. Pangola, pangola, pangola. Yo fallait pas croquer le pangola. Pangola, pangola, pangola. Yo mets du respect sur les pangolas. Je me sens comme Bill Murray dans le jour de la marmotte. Sauf que lui au moins était libre de voir ses potes. J'ai eu le temps de vouloir apprendre à faire du karaté. Mais l'enfermement n'effacera jamais le karaté. J'ai l'impression que mon Instagram est un bouquin de cuisine. Depuis que je suis enfermé chez moi, je pense que mon chat me domine. Je fais plus aucun effort, je regarde même plus de porn. Et je fais croire à mes potes que malgré ça, moi je garde la forme.
Lorsque le pangolin décide d'aller chasser, ses écailles emboîtées s'avèrent particulièrement utiles. Ce n'est pas un animal féroce. Il n'a même pas de
genre. Pangola, pangola, pangola. Yo mets du respect sur les pangolas. Au pangola, pangola, pangola. Yo fallait pas croquer le pangola. Au pangola, pangola, pangola. Yo mets du respect sur les pangolas. J'suis un peu comme dans Seul au monde sur une île déserte. J'suis Tom Hanks de mon avare. Wilson c'est ma plante verte. J'me lave plus rien mais j'lave mes mains et ça me donne bonne conscience. J'ai même tenté de faire mon purel mais j'suis trop nul en science. J'regarde des tutos de tricot, j'ai commandé les pelotes. On n'est pas sorti de sitôt, j'ai temps d'apprendre la belote. J'sais plus à quelle heure j'dors. Ouais j'me dis mal alors. J'regretterai sans doute ce temps mort. Quand je mettrai le pied dehors. Pangola, pangola, pangola. Yo mets du respect sur les pangolas. Pangola, pangola, pangola. Yo fallait pas croquer le pangola. Yo pangola, pangola, pangola. Yo mets du respect sur les pangolas.
Toujours sur le 101.1 FM, c'était Pangola de l'artiste Of Course. La Canteur, je vous propose de réserver vos repas et de les prendre à emporter pour les déguster chez vous en toute sécurité au soleil. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir le reportage produit fin 2017, lorsque l'association était menacée d'expulsion.
Bonjour, fromage. Ouais.
Alors, je suis au restaurant La Cantoche, au 204 rue Jean Jaurès à Brest. Thierry Hébert, bonjour. Vous êtes à l'origine de la création de ce restaurant, qui a pour particularité d'être un restaurant associatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ?
Comment ça a commencé ? En fait, c'est un restaurant qui a ouvert en 2016. Le principe du restaurant, c'est la mixité sociale, c'est-à-dire que tout âge, tout métier, tout différence, que ce soit des gens qui sont au RSA, des gens qui sont à la rue, des gens qui sont au chômage, des gens qui travaillent, puissent se retrouver dans un lieu convivial, chaleureux, comme on a pu le faire. Le principe, c'est de récupérer des invendus donc dans les grandes surfaces et les agroalimentaires, de les transformer, de les cuisiner et les resservir comme dans un vrai restaurant, puisqu'en fait, on a les serveuses, on a tout. Et donc, on sert des repas chauds et équilibrés tous les midis, voilà, avec des produits qui seraient à l'origine destinés à aller à la poubelle. Et c'est pour ça qu'on peut faire des tarifs donc à 2, 4 et 8 euros. Et qu'on peut accueillir des personnes qui sont à faible ressource et qui ne pourraient pas se permettre d'aller dans un restaurant normal.
Ah, le deuxième plat,
oui.
Pâte au foie gras avec une tranche verte.
T'appelles ça comme tu veux.
Pâte au foie gras.
Et c'est combien de personnes qui bénéficient de ces repas à tarif réduit ?
Aujourd'hui, on est à 400 familles inscrites. On a une capacité de 73 places, donc tous les jours on fait entre 60 et 80 couverts, et on va dire que il y a les trois quarts des personnes qui sont là sont des gens à 2, 4 euros, des étudiants aussi à 4 euros. Voilà, donc on va dire il y a à peu près les trois quarts des personnes le midi qui sont là, voilà, que l'on aide.
Et je voulais parler aussi des acteurs, des bénévoles qui font vivre l'association. Vous êtes combien à travailler régulièrement ?
Alors, on est une soixantaine de bénévoles. Comme dans tout bénévolat, il y a toujours un petit noyau dans toutes les associations. Donc on est un petit noyau de 40 personnes. On est à peu près 10-12 tous les jours. Pour faire tourner donc la cantoche, et on a un salarié. donc qui est le cuisinier, qui est salarié, et c'est un contrat donc réinsertion, retour à l'emploi.
Alors boulette de viande au hareng, tu auras une purée avec.
C'est du thon là et du maïs. Et il y a Daniel qui prépare les pommes de terre là-bas.
Vous faites de la cuisine tous les midis?
Tous les midis, pas forcément, mais de temps en temps. Deux fois par semaine en général.
Et ça fait longtemps que vous faites ça?
Ça fait un an et demi maintenant.
J'ai fait une formation cuisine, j'étais conducteur de travaux avant, en cabinet d'architecture. Et puis le conseil m'a paru vraiment super, exceptionnel, aider les gens. Donc en attendant de trouver un poste, je travaille ici. Et puis c'est très volontaire, les clients sont super. Et puis en cuisine, on a une très bonne ambiance. Voilà.
L'association est aujourd'hui menacée d'expulsion de ses locaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé?
Alors, par rapport à la menace d'expulsion donc, de ces locaux, depuis août l'année dernière, on a eu donc un dégât des eaux. On a fait les déclarations au niveau des assurances. Les propriétaires n'ont pas bougé. Ils ont mis tout de suite la faute sur nous par rapport aux travaux qu'on avait effectués. Voyant que ça ne bougeait pas, donc on a été obligé de faire un appel au tribunal. On est resté pratiquement 10 mois sans eau, où on faisait la plonge, le ménage et tout ça. On allait chercher de l'eau dans un autre local que l'on loue. On allait chercher l'eau, on le mettait dans la plonge et on faisait la vaisselle comme ça, faire chauffer l'eau à la bouilloire. Enfin bon, ça a duré 10 mois. Je ne sais pas comment les bénévoles ils ont fait pour tenir autant de temps. Ils n'ont toujours pas payé les travaux. Et donc les travaux ont été réalisés donc par nous. C'est notre assurance qui a avancé les travaux. S'il y en avait quand même pour 5000 euros, il fallait refaire tout le réseau d'eau froide. Sur ce, il y a d'autres dégâts des eaux qui se sont mis dessus. Deux jours après l'expertise, on reçoit un courrier donc, par un huissier. Nous sommes mandés de quitter les lieux immédiatement, c'est-à-dire qu'on nous donnait 10 jours quoi, pour quitter les lieux.
Bah, je trouve ça assez lamentable, si on peut le dire à la radio, parce qu'il y a beaucoup de gens, de personnes qui ont besoin de nous. Vu le prix des repas, c'est pour certains le seul repas de la journée, pour 2 euros, entrée, plat, dessert. Ce qui n'est pas négligeable, dire quand on connaît les personnes, parce que mine de rien, il y a des habitués, donc on sympathise avec eux. C'est vrai qu'il y a un panel de personnes différentes, donc il y a des ingénieurs, des banquiers qui viennent, et puis comme des gens qui ont du mal à vivre. On sait très bien, quand il y a des personnes seules, on essaie de mixer les gens, et donc il y a des contacts qui se font, voire des offres d'emploi, c'est déjà arrivé. C'est pour ça que je me suis engagé dans cette association. Voilà.
Une pétition a déjà été lancée donc pour sauver la Cantoche et il y a déjà plus de 8000 signatures qui ont été enregistrées. Est-ce que vous pensez que ce soutien de la part de la population peut faire pencher la balance en votre faveur pour l'audience?
Ben, on espère. C'est-à-dire qu'on a mis cette pétition en place parce que pour essayer de faire basculer la balance si on veut, mais déjà on est surpris pour avoir autant de signatures en 5 jours, on ne pensait pas qu'on aurait eu autant de signatures, parce que là c'est 8000 signatures donc sur le site, mais on a aussi toutes les signatures qui sont faites au restaurant, des gens qui s'arrêtent et qui viennent signer la pétition. Donc oui, on espère que le juge va en tenir compte. Si on donne raison à des propriétaires de continuer d'être marchands de sommeil et de louer des locaux qui sont insalubres, même qu'ils ne fassent pas les travaux, ou si on donne raison à une association de rester dans les locaux, puisque voilà, on est quand même là aussi dans le but humanitaire d'aider des gens qui sont en difficulté. Maintenant, je m'en remettrai au juge de la décision qu'il prendra lundi, en espérant qu'il prenne la bonne décision.
Le reportage est à retrouver sur le site Murmure. C'est vous qui le dites est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et merci à toi, Pierre-Louis, pour ton interview avec Julien Gracio d'Organic Boats.
Un plaisir, Marion. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission.
Avec grand plaisir. Et retrouvez donc cette émission en podcast sur le site internet de Radio U, ainsi que toutes les autres émissions de la radio. On se retrouve jeudi prochain à 18h, toujours sur le 101.1 FM. Et en attendant, amusez-vous bien.